RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, coup d'envoi des GG, nous sommes ensemble en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, Marianne Soubré, avocate, bonjour maître.
Bonjour à tous.
Nous sommes avec monsieur le professeur d'histoire géographie, Kevin Bossuet, bonjour.
Bonjour.
Et Kaouter Ben Mohamed nous accompagne, président de l'association Marseille en colère, bonjour.
Bonjour à tous, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Alia et saluer Lily de Salon de Provence.
Ah bah si on est sur les anniversaires.
Non, commencez pas.
Ah bah si, on va
c'est aujourd'hui
saluer
en plus.
Quand même notre ami Étienne.
Bah oui, Étienne Big, bon anniversaire.
Ah, bon anniversaire Étienne.
Il vient tout juste d'avoir 40 ans.
Et puis permettez que nous saluions aussi le millier de maires et d'élus que nous avons croisés hier aux Folies Bergères avec Olivier à l'occasion de cette cinquième remise du Grand Prix des
Maires. Oui, on a remis des trophées hier sur la scène des Folies Bergères. Kaouter, t'étais dans la salle,
n'est-ce pas?
C'est sympa.
Très sympa. Et en plus, franchement, j'ai pas retenu le nom de la petite ville. Je crois que c'est Mions, dans la région bordelaise. C'était une équipe municipale. Ils étaient tous jeunes, très dynamiques. Ça faisait plaisir.
Eh bien, Mions, justement, sera l'honneur parce que tout à l'heure, à 11h, on va recevoir deux lauréats. Michael Paco, qui est l'adjoint en charge de la sécurité de la ville de Mions et qui a mis en place une formation de la population pour les gestes de secours. Et puis, on recevra également Véronique Pouzadou, la maire de Ghana, pour l'initiation des personnes âgées au numérique. Donc, Madame Pouzadou et Monsieur Paco, on vous attend à 11h pour rendre hommage au maire de France.
Ouais, et on salue parce que tous hier, dans la discussion, on remerciait les GG, les grandes gueules, et vous-même, vous tous, parce que ce qu'ils apprécient, c'est qu'on parle de la vie quotidienne et qu'on prenne le temps d'écouter tous ceux qui nous appellent au 32-16 et qui régulièrement racontent ce que c'est que de 8h à midi, de midi à 20h, vivre simplement en France avec toutes ces difficultés que cela peut représenter, ce qui se passe dans leur ville, voilà.
Et puis, puisqu'on dit merci à tout le monde en ce moment, on pourrait remercier aussi les auditeurs d'Île-de-France, puisque ce matin sont tombées les audiences pour la région parisienne. Et RMC, la radio qui gagne le plus d'auditeurs en Île-de-France. Et oui, Kaouter, on nous écoute à Marseille, mais également autour de Paris. 100 000 auditeurs de plus en un an. Et pour les grandes gueules, c'est une hausse de 23%. Merci aux Franciliens de nous faire confiance.
Merci à tous, on va essayer d'être digne justement de cette confiance. Aujourd'hui, pas mal de sujets de discussion, vous allez pouvoir y participer bien sûr en nous appelant au 32-16. Le premier sujet va concerner cette femme de 34 ans, admise aux urgences à Cochin parce qu'elle avait fait un malaise en sortant d'un bar, et aux urgences à Cochin, elle a été violée par un homme qui était sous le coup de deux OQTF, qui avait une bonne dizaine d'identités. Écoutez son avocat.
RMC, les grandes gueules.
Ma cliente, elle a eu un double traumatisme. Un traumatisme en raison d'effets criminels dont elle a subi, et un autre traumatisme en raison du lieu. Un établissement public hospitalier, selon le code de la santé publique, tout établissement public de santé a une obligation de surveillance. Aujourd'hui, elle veut découvrir la vérité. Elle veut comprendre ce qui s'est passé.
Et ça s'est passé dans la nuit du 27 au 28 octobre dernier.
L'histoire, elle est dingue. Donc cette jeune femme qu'on va appeler Isabelle, elle a 34 ans, elle passe la soirée dans ce bar connu en bord de Seine à Paris. Elle est victime d'un malaise pendant la soirée. Donc devant l'établissement, elle tombe et sa tête heurte le sol. Elle souffre d'un traumatisme crânien. Elle est secourue par les pompiers qui la conduisent à l'hôpital Cochin où elle est admise dans un box individuel. Alors qu'elle se trouve dans les vapes, c'est son témoignage, elle est soudainement réveillée par la douleur que lui inflige un homme qui est en train de la violer. On est à Cochin, dans le box individuel. Ses cris font fuir l'agresseur qui parvient à quitter l'hôpital mais qui emporte quand même avec lui la carte bancaire de la victime. Le personnel soignant prévient la police et c'est grâce au signalement du suspect que les policiers de la BAC du 14e arrondissement de Paris vont repérer l'homme en question, vont l'arrêter une heure plus tard. Il était en train de faire des achats dans une épicerie avec la carte bleue de la jeune femme. Et on va apprendre que le suspect, en fait, aurait repéré Isabelle dès son malaise devant le bar. D'après les témoins, cet homme rôdait autour de la jeune femme, et en la regardant avec insistance, comme un mort de faim. C'est l'expression qui a été utilisée par les témoins. Donc la jeune femme est conduite à Cochin, et au même endroit, le suspect va simuler un coma éthylique pour pouvoir lui aussi être transporté à Cochin. Il se retrouve donc placé à côté de sa future victime et il commet ce qu'il a commis. Donc il a été placé en garde à vue, et alors là on apprend que c'est un homme sans papier, Il affirme être jordanien. Le problème, c'est que il est connu par la police sous 13 identités différentes. Après avoir été arrêté plusieurs fois pour vol, recel, usage de drogue, il était également suspecté d'avoir violé une mineure en Seine-et-Marne en 2020, mais l'affaire a finalement été classée sans suite. Il était arrivé en France illégalement en 2019. Il avait été soumis deux fois à des ordonnances de quitter le territoire français, mais comme il a plein d'identités, visiblement, ça a été compliqué de faire suivre ses OQTF. Bref. Beaucoup de choses à dire sur cette histoire, elle est assez accablante.
On a une championne là, toute catégorie confondue. Pardon, je disais qu'on avait une championne toute catégorie confondue. Tu vois, je ne suis pas celle qui prône... Mais blague à part, tu vois, au-delà du fait divers, on a beaucoup de faits divers ici, très régulièrement. On fait quoi d'un mec comme ça? On ne sait pas qui c'est en fait. Tu vois, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient. 13 identités, des dizaines de QTF, il a déjà été soupçonné d'avoir violé une mineure. Fait... Effectivement, moi je comprends quand les gens après ils disent mais on veut pas de ces gens-là, parce que pour moi l'immigration, tu immigres pas pour venir voler, pour venir violer en fait, tu viens pour travailler au départ. Mais c'est hyper inquiétant, tu vois, de se faire violer de manière générale et encore plus dans un hôpital, tu vois, le mec il a pisse, il est pas tranquille en fait, tu vois, il a pisse, il simule un malaise, c'est ça que tu me dis.
Ah oui, c'est ça.
Il se fait interner près d'elle, il la viole et il est tellement abruti qu'en plus il sort de là, il va acheter avec sa carte bleue, il se fait repérer immédiatement. Moi, j'ai pas de solution, mais voilà, juste.
Alors, il faut préciser qu'Isabelle vient de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre X. Elle reproche notamment à l'hôpital Cochin de ne pas assurer la sécurité des patients.
Il faudrait peut-être porter plainte aussi pour le coup contre le ministère de l'Intérieur qui sait pas quoi faire de ces gens qui mettent tout le monde en danger.
C'est pour ça qu'on se demande, est-ce que c'est une succession de fautes de l'État dans cette affaire, quoi, Kevin Bossuet?
Quand Monsieur Dupont-Moretti nous raconte que dans cette société, il n'y a pas d'ensauvagement, là, on est typiquement dans l'ensauvagement. Donc, à un moment, et ce genre de choses, là, c'est hyper médiatisé, mais ça arrive, en fait, tous les jours. C'est ça qui est quand même, si ça arrive très souvent, peut-être
jours.
Pas de manière aussi grandiloquente au niveau des faits, au niveau de l'usurpation d'identité, etc., ou des fausses identités, mais ça arrive quand même tous les jours. Après, il y a le problème quand même de la violence, une violence de plus en plus importante, une violence qui est encore ici gratuite, puisque cette victime n'avait absolument rien fait. Son seul fait, c'est d'être sans doute plutôt jolie et d'être une femme. Et ensuite, un délinquant qui est capable, finalement, de remettre en cause l'autorité de l'État. C'est-à-dire que l'État est incapable de gérer ce genre d'individu. On est la sixième ou septième puissance du monde et on est incapable, en effet, d'arrêter cet homme et de le mettre hors d'état de nuire. C'est incompréhensible pour la population. Et encore une fois, quand on arrive à ce discrédit de l'État, il ne faut pas s'étonner par la suite que les gens aient envie de se faire justice eux-mêmes, parce qu'on est, on est quand même là-dedans. Donc, et après, il y a évidemment l'affaire des OQTF,
et OQTF
qui ne sont absolument pas appliquées. Et encore une fois, c'est comme toutes les affaires, par exemple l'affaire Lola, ce type n'avait rien à faire sur notre sol, c'est bien une carence de l'État qui a provoqué finalement ce viol en n'intervenant pas. Donc moi, je trouve quand même qu'on est dans une société où l'État, où on a le sentiment que l'État ne nous protège plus. Et moi, ça m'inquiète beaucoup.
Mais il y a double problème de sécurité. Il y a la sécurité, effectivement, parce que cet homme n'avait rien à faire là.
Et de l'hôpital.
Il y a l'hôpital
aussi.
Elle est hospitalisée, elle se fait violer dans un box. Vous savez ce que c'est, les box individuels.
Ouais,
c'est quand même
c'est...
pas non plus complètement isolé. Hein, à l'hôpital Cochin.
S'agissant de cette personne, j'ai pas d'état d'âme en fait. Hein. Un étranger en situation irrégulière qui commet des crimes sur le territoire français, je n'ai aucun état d'âme à dire qu'il doit être expulsé. J'ai aucun état d'âme par rapport à ça.
Mais du coup,
voilà,
expulsé
donc,
où
tout de suite, je le dis parce que Kevin me soupçonne toujours.
Mais le problème,
voilà, et on y arrive parce que je peux dire ça. Ouais. Je peux dire ça. Mais après, concrètement, on fait quoi de quelqu'un dont
droit,
on connaît, voilà, parce que voilà, on est tous d'accord, quelqu'un qui est très dangereux, qui est étranger, qui est en situation irrégulière, doit être expulsé vers son pays d'origine. Et c'est là que tu tombes sur le vrai problème. Qui est cet homme-là?
Quel est son pays d'origine?
Voilà.
Quoi, c'est ça.
Si on a 12 alias, ça veut dire qu'on ne connaît pas son identité réelle, on ne connaît pas son pays d'origine, effectivement, parce qu'il se dit jordanien, il est fort probable qu'il ne le soit pas.
Exactement.
Parce que les trois quarts, alors je vais vous dire, alors le pire, c'est ceux qui se revendiquent comme palestiniens les trois quarts du temps, parce que la Palestine, on ne sait pas vers où les renvoyer, etc. Donc en réalité, il est fort probable qu'il ne soit pas jordanien. Maintenant, de quelle nationalité est-il? Quel est son nom? Parce que pour que son pays d'origine, si on arrive à le trouver, le prenne, il faut qu'on ait une identité. Donc, on a en fait cet angle mort qui fait que on pourra dire tout ce qu'on veut.
C'est ça.
On aura toujours des gens comme ça. Donc la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire de lui.
Tu ne peux même pas le placer en centre de rétention.
Bah, tu peux, mais après,
il y a très identité, très identité différente.
Mais il sort après, il est relâché. Mais c'est pas une prison.
Parce que t'as à la fois le délit d'usurpation d'identité.
Oui, mais c'est pas une prison, le centre de rétention.
Là, aujourd'hui, au stade où il en est, si vraiment il a commis ces faits-là, c'est même plus de la rétention. De toute façon, ça sera la détention provisoire pour être jugé derrière, parce qu'on est quand même, je veux dire, avec un viol qui a été commis. Enfin, je veux dire, il a
un crime.
Voilà.
Et avec préméditation, visiblement.
On est sur un crime avec, en plus.
Il a monté tout un tracteur, en fait.
Vraiment, ça s'est passé comme ça. C'est quelque chose. Aujourd'hui, il est toujours présumé innocent, mais quand même, on est.
Il était sous l'emprise de la cocaïne et du cannabis aussi.
En plus, donc il y a effectivement ce point de vue-là où malheureusement, je vous dis, on aura beau être tous d'accord sur le fait qu'il ne peut pas rester sur le territoire, on va avoir du mal à l'expulser si on ne sait pas
de quel pays il
est. Donc c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que on est aussi face au manque criant de personnel dans les hôpitaux, parce que en réalité, auparavant, je dis pas qu'il faut mettre des agents de sécurité dans les hôpitaux. J'espère qu'on va pas en arriver là. Mais auparavant, il y avait tellement de gens autour. Il y a des soignants qui passent, etc. Que ça pouvait pas arriver. Aujourd'hui, on te laisse dans un box. Et d'ailleurs, on le voit, des personnes qui meurent parce que ça fait des heures et des heures qu'ils sont là et que personne s'est rendu compte qu'ils étaient en train de mourir. Donc, il y a aussi un manque criant sur les hôpitaux. Donc, il y a un deuxième problème, qui est un problème, on va dire, secondaire, parce que c'est pas ça qui a
censé quand même avoir un agent de sécurité à l'hôpital.
Oui, mais il peut
en
pas surveiller.
En tout cas, normalement, c'est la surveillance de tous les gens qui sont là. Tu peux
l'agent
pas
de sécurité,
arriver.
Il est à l'entrée. Voilà. Il n'est pas dans les boxes, etc. Moi, je me suis fait opérer. J'ai été opérée début octobre. Je rentre. C'est une chirurgie ambulatoire. Je rentre et je sors du bloc. Je m'habille pour partir. Il y a un gars, ça faisait 4 heures qu'il était là. Ils l'ont oublié. Il n'était pas passé au bloc encore, quoi. Tu vois. C'est-à-dire qu'il y a tellement de patients et effectivement tellement peu de personnel
soignant. Maintenant, si on s'est violé à l'hôpital, si on s'est violé maintenant à l'hôpital,
non, mais je cautionne.
C'est censé être un peu un sanctuaire.
On
quand
ne cautionne
même.
Ni Marianne ni moi, non, mais cautionne. Mais on cautionne.
Moi, je veux bien
pas,
qu'on trouve toujours des explications. Il y a trop de monde, pas assez de personnel. Enfin, toujours des bonnes. Il y a quand même toujours des bons arguments pour rien faire. Là, il y a trop de monde. Alors, il a 13 nationalités. On ne peut pas prendre le temps, quand on l'arrête, d'essayer de remonter le fil et de savoir d'où il vient.
Mais explose-le, Olivier. Mais lui, il faut l'exploser. Il n'y a aucun de nous trois qui t'a pas dit.
On est tous d'accord.
Mais on t'a dit explose-le, mec.
Mais ça a été aggravé, et je dis pas que c'est la cause principale, mais ça a été aggravé par le fait que dans les hôpitaux, il y a plus personne. Voilà. Et
quand
c'est tout.
Une infirmière par étage, elle peut pas être au fond du
couloir. Kevin Bossuet, Kevin.
Non, mais je crois qu'il faut arrêter avec cette culture de l'excuse, essayer toujours de trouver des explications pour expliquer ce qui n'est pas tolérable. La vérité, il y a sans doute un manque de personnel. La vérité, c'est qu'on accepte la violence. On a accepté que dans l'enceinte d'un hôpital, on pourrait éventuellement être victime d'un vol ou être victime d'une agression. Il y a de plus en plus, même dans les hôpitaux, il y a une croissance notamment du nombre de vols dans les chambres. Il y a également de plus en plus de gens qui se font agresser. Moi, je suis allé une fois aux urgences de l'hôpital Bichat. Croyez-moi, j'étais pas rassuré entre les alcooliques qui étaient d'un côté, les autres. Oui. C'était une vraie cour des miracles. On ne se sent pas en sécurité. Et il y a la question aussi du consentement à l'impôt. On paye quand même beaucoup d'impôts pour un service public qui n'est pas à la hauteur. Quand je vais à l'hôpital, j'ai envie de me sentir en sécurité. Mais c'est quand même la moindre chose.
On dit tous la même chose.
Cette personne qui a 13 usurpations d'identité.
Ouais. C'est ça le problème.
Même ça, c'est pas suffisant pour être incarcéré, notamment.
Ah, non, mais tout ça est suffisant pour être incarcéré. Mais de toute façon, il va sortir.
Avec les 13 usurpations d'identité.
Manifestement, s'il a usurpé 13 fois, c'est aussi ce que j'ai cru comprendre. J'ai pas tout son casier judiciaire. Mais il a déjà été incarcéré. C'est ce que j'en ai compris.
Il a été arrêté plusieurs fois pour vol, recel, usage de drogue. Donc, alors, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il fait dans la nature?
Ce qu'il fait dans la nature, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est que personne personne ne peut faire de miracle si tu ne sais pas qui est une. Parce que là, par exemple, en France, pour avoir des papiers d'identité, tu donnes tes empreintes. Donc, effectivement, si quelqu'un demandait à la France, peut-être qu'on me trouverait et qu'on dirait, bon, ben, cette personne est française. Mais c'est pas tous les pays comme ça. En fait, comment tu le trouves, la personne?
Donc, je t'écoute. Donc, tu arrives en France clandestinement, tu dis,
tu
donnes
une
nationalité différente et tu t'en sors.
Justement,
ta réponse n'est pas satisfaisante.
Non,
il suffit de dire
aux policiers.
Un coup, je suis jordanien, un coup, je suis tunisien.
Je ne suis pas le ministère de l'Intérieur. Deux, le problème
est
peut-être.
J'espère que les policiers sont quand même plus.
Que cette personne ait pu rentrer clandestinement sans qu'à aucun moment on ait pu vérifier son identité.
Sauf que ce n'est plus un délit d'être clandestin.
Donc, le fait.
Oui, mais ça l'a été que très peu de temps.
Parce que moi, je voulais les comprendre, puisque déjà, il a des faits de violence, plus la consommation de stupéfiants, même si ça, c'est pas
en 2020, il a été suspecté
les usurpations d'identité. Je me demande simplement à quel moment, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, simplement pour ces faits-là, à le garder derrière les barreaux?
Mais on peut, mais à un moment, tu dois le relâcher. Parce que normalement, le but, c'est de le renvoyer, c'est de l'expulser.
Mais tu ne peux pas le relâcher. Oui, dans ce cas, tu le relâches pas.
Mais tu ne le relâches pas, tu ne peux pas non plus, c'est complètement arbitraire. Tu ne peux pas garder quelqu'un de 250 ans en prison sous prétexte que tu ne sais pas où il va.
Il n'est pas là non plus 10 ans. En 3 ans, il s'est quand même manifesté.
Il y a une durée maximum sur la rétention administrative.
En 3 ans, sur notre territoire, il a été suspecté de viol. Alors, classement sans suite, il faudrait savoir pourquoi on a classé sans suite, parce que visiblement, il y a des petits soucis de prédation sexuelle, cet homme. Il a été arrêté plusieurs fois, on nous dit-on, pour vol, recel, usage de drogue. C'est procureur de mots. Donc, en 3 ans, plusieurs fois arrêté pour vol, recel, une fois accusé de viol, et le mec est dans la nature. Oui, parce que vous comprenez, il a plusieurs nationalités. Sincèrement,
il n'a pas plusieurs nationalités, il a des alias. Ce qu'il faudrait, effectivement, c'est trouver un moyen, mais moi, je ne suis pas informaticienne.
Les alias, c'est donc des faux papiers, alors.
Non, les alias, en fait, c'est des identités différentes. Avoir un alias, ça veut dire aujourd'hui, je vais dire que je m'appelle Marianne Soubré, demain, je dirais je m'appelle Marianne Marshall.
De la déclaration verbale.
Oui,
en fait,
absolument.
C'est ça. Et derrière, on n'arrive pas à prouver.
Ça a été consigné pendant
13 fois.
Noms que tu donnes au moment où tu te fais arrêter. Puis en plus, quand tu te fais arrêter, tu donnes le nom de ton père, le nom de ta mère. Et des fois, il y a des alias aussi parce que tu as changé le nom de ton père ou le nom de ta mère.
C'est facile de déjouer la justice. Voilà, en fait, c'est ça que je résultat.
Sauf si on te connaît déjà et sauf si on t'a trouvé en possession de documents de
la vraie question, c'est a-t-on les moyens d'identifier ce type de personne? C'est ça la question. Et ça, c'est pas le travail de Marianne,
c'est
le ministère
de
l'Intérieur. Les deux, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, dans l'état des faits, pour moi, être clandestin, c'est pas un délit. Quand tu viens ici pour te soigner ou pour travailler, t'as pas de papier, mais souvent, et on en a beaucoup de témoignages ici, c'est déjà, exactement. Après, quand tu es violent comme ça, quand tu es un délinquant sexuel, que tu fais du mal, effectivement, on doit se débattre. Il y a deux problèmes.
Il y avait deux OQTF, parce que
je pense que même s'il était identifié en termes de pays d'identité, le problème, c'est que souvent, les pays ne les reprennent pas. Et pourquoi les pays ne le reprennent pas? Donc, c'est le problème de Darmanin aujourd'hui.
Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a quand même deux UQTF qui ont été délivrés. Donc, on avait bien
identifié. Sous ses alias, non?
Donc, on avait bien identifié au moins deux nationalités.
Non, mais qui sont sous les noms qu'il a donné. C'est sous les noms.
La discussion est lancée avec les GG, avec les grandes gueules. Dans un instant, Jonathan, il est du côté de l'Hérault, il est maçon, il sera avec nous. Au 32-16, rien ne va dans cette histoire que l'on vous raconte. Cette femme qui a été violée aux urgences par un sans-papier qui avait 13 alias sous le coup de deux OQTF. Visiblement, on ne savait pas quoi en faire. L'État, là. Est-ce que c'est la responsabilité de l'État qui est engagée? 32-16 pour Omar. Le grande gueule.
Sur intermarché.com. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, Marianne Soubry, Kaouter Ben Mohamed et Kevin Bossuet. Voilà nos trois GG. On parle de cette femme qui a été violée aux urgences de l'hôpital Cochin. On en parle avec Jonathan qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Jonathan.
Allô, oui, bonjour.
Ouais, c'est vrai que dans cette histoire, pardon pour cette expression qu'on a employée plusieurs fois, on se dit mais rien ne va, quoi, rien ne fonctionne. Est-ce que c'est l'État qui est en partie responsable, Jonathan?
Oui, pour moi, oui, à 100%, c'est l'État qui est responsable, parce qu'il n'y a rien qui est fait. Il faut se dire que depuis, ça fait un moment qu'on entend parler aux informations de tous ces faits divers, avec des gens qui ont des OQTF, qui sont pas partis du territoire, qui tuent des gens. Par exemple, le viol de la fille qui avait un OQTF, qui a tué la petite fille et tout, mais je comprends pas. Ils attendent de quoi quand ils les arrêtent? Pourquoi ils les prennent pas? Ils les mènent pas dans leur pays. Moi, je veux savoir pourquoi ils font pas ça. Pourquoi ils prennent pas la main dans leur pays? Le monsieur, là, il s'est arrêté pour drogue, pour viol. Là, il rentre dans un hôpital. Il fait semblant qu'il est machin. Moi, je comprends pas.
Parce qu'à chaque fois, c'est des raisons différentes. Alors là, on nous explique que c'était compliqué parce que... parce qu'il avait des identités différentes à chaque fois. Dans le cas de la meurtrière présumée de la jeune Lola, c'est parce que l'Algérie n'en veut pas, parce qu'il faut, il faut l'accord du pays.
Laissez passer consulaire.
C'est ça. Pas normal, ça, par contre. Quand on sait qui c'est pas normal, tu vois, je comprends pas pourquoi. Excusez-moi, on est d'accord avec vous.
Même s'ils ne veulent pas, on leur donne. Même s'ils ne veulent pas, on leur donne. Voilà, même s'ils ne leur veulent pas. Qu'est-ce qu'on va faire ici en France avec eux? Ils vont ressortir, ils vont refaire la même chose encore une fois. Vous avez vu, il a fait plein de fois.
Oui, il y a des chances qui recommencent.
Il ressort, il recommence.
Non mais là, je suis d'accord avec vous que des gens qui sont dangereux n'ont rien à faire sur le territoire, mais là, s'agissant de cette affaire-là, la dernière,
précisément,
j'ai quand même le sentiment que, en fait, on ne sait pas qui c'est.
C'est ça.
Donc, ne pas savoir qui c'est fait qu'on n'a aucun pays, en fait, vers lequel le renvoyer, puisqu'on ne sait même pas de quelle nationalité il est. Oui, non mais j'entends bien.
Jonathan.
Donc en fait, donc puisqu'on ne sait pas qui c'est, eh ben on le garde en France et on le laisse en liberté et jusqu'à qu'il commette des crimes et on laisse ça faire que l'État.
Jonathan, je vous pose la question, on l'envoie où en fait? Ouais voilà, on l'envoie où? Dans quel pays?
On l'envoie où? Pas qui c'est. Moi je veux vous dire, moi aussi, mais vous savez que moi mes grands-parents ils viennent d'Algérie, on est des immigrés, on vient ici en France, on a, mais je sais pas, moi on a fait ça.
Vous savez d'où vous venez?
Mais oui, c'est d'où je viens.
Mais lui, on ne sait pas d'où il vient.
Alors, on peut
c'est
peut-être se donner les moyens de trouver.
Je serais la première à le prendre un coup de pied aux fesses pour le renvoyer d'où il vient.
Mais on ne sait pas d'ici, en fait.
Si vous voulez, en fait, eh ben, la dernière, par exemple, le dernier pays où c'est qui a marqué sur son passeport ou sur ses papiers.
Mais il n'a rien. C'est des déclarations verbales. Il n'y a aucun papier d'identité, voilà. Donc on n'arrive pas à l'identifier.
C'est un SDF, on le dit.
Oui, mais c'est ça, mais comment il vit depuis tout ce temps?
C'est un SDF. Alors je vous explique, de ce que j'en ai compris, c'est un SDF dont nous on peut retracer, la police peut retracer qu'il a commis des délits parce qu'il y a ses empreintes, mais à chaque fois il a donné un nom différent, ce qu'on appelle un alias, c'est-à-dire un jour il dira bonjour je suis Jean Dupont et avec les empreintes suivantes il dira
je suis Kevin Bossuet,
le troisième jour il dira je suis Olivier Truchot et voilà, et donc en réalité...
Pardon mais son visage on l'a,
oui.
On peut pas faire circuler un appel dans les pays africain ou maghrébin, puisque
c'est pas de lui dire, tu sais, il est jordanien.
Quand on les a, excusez-moi, on est tous d'accord sur ça, même si voilà, non, mais non, parce que jamais on va te donner,
manifestement, non, visiblement, il n'est pas suédois.
Mais s'il dit que les Jordaniens, on peut faire la Jordanie, on peut faire les pays,
ils ont demandé déjà,
et on prend les 13 identités, on envoie son visage aux ambassades, je sais pas, on fait une enquête, quoi.
On peut essayer d'être efficace, non, c'est pas qu'on l'a pas fait, c'est qu'en fait, en général, quand tu donnes pas ton identité, que tu donnes des alias, que tu brûles ton passeport ou que tu le laisses ailleurs, tu vois. Donc tu vas pas dire que tu viens d'Algérie si tu es algérien, tu vas pas dire que tu viens de Jordanie si tu es jordanien.
D'accord, mais comme il a été arrêté.
Oui, mais donc je termine. Donc déjà, quand on sait qui ils sont, qu'ils sont identifiés comme de tel pays, le pays ne veut pas le reprendre. Tu crois vraiment qu'avec une photo qui va circuler, on va retrouver l'identité du gars?
Allez-y, il y a
pas, les gens ne sont pas identifiés dans d'autres pays comme ils sont identifiés chez nous.
Moi, je dis oui, ben comme dit
Olivier.
Ouais, comme disait tout à l'heure, ben la dame qui est en train de parler là.
Marie-Anne Soubré ou Cauter.
Ouais, allez-y.
Cauter, Marseille en colère, voilà. Mais je l'adore. Franchement,
merci,
elle est la vérité, elle est toute naturelle et c'est le vraiment. Mais de toute façon, même tous, hein. Tous
vous la connaissez pas bien.
Vous êtes autour de la table, vous êtes vraiment au top. Voilà.
Il dit ça, mais il me garde.
Grâce à vous, toute la journée, je suis avec vous aux informations, quand je bosse, machin et tout, je vous écoute toute la journée, j'arrête pas de vous écouter. J'adore ce que vous faites, vous êtes juste incroyable. Et pour en finir, justement, je vais pas vous embêter plus longtemps, parce que d'avoir d'autres personnes, à mon avis, derrière. Mais pour terminer, ben, moi, je trouve ça pas normal que des personnes comme ça, qui sont ici, eh ben, qu'on peut pas les renvoyer chez eux, j'arrive pas à comprendre.
Et pourquoi, moi, j'ai une question, et pardon, mais, j'attends, je pense que c'est une question que vous posez, je la pose à Marianne, qui est notre avocate aujourd'hui. On a quand même délivré deux OQTF.
Oui.
Quand tu délivres une OQTF, il y a bien un pays.
Non. Ah oui, mais il y a un pays de l'alias.
Fausses identités.
En fait, je t'explique. Il y a deux façons d'avoir des OQTF.
La dernière remontait au mois de juillet dernier.
Je t'explique. Bon, je m'appelle Rachel Bensoussin.
Excuse-moi,
Marianne, je vais expliquer.
Il y a deux façons d'avoir des OQTF. La première, c'est sur la meurtrière présumée de Lola. Elle a fait une demande de titre de séjour ou de renouvellement. Donc, on a son nom, son identité. Tout est vérifié. Et donc, on a fait une OQTF par voie postale. Elle avait 30 jours. Ça, c'est la première. C'est la personne s'est vérifiée, etc. Ces gens-là, on peut les renvoyer.
On l'a pas fait avec la.
Et il y a l'OQTF. OQTF que l'on prend dans le commissariat de police sur lequel tu as 48 heures pour faire un recours, et celle-là, c'est la personne la dit parole. Je suis monsieur X, et à ce moment-là, on fait l'OQTF contre monsieur X de telle nationalité par rapport à
et
sa déclaration.
Pas, c'est dire.
Eh ben, on peut pas vérifier s'il a rien sur lui.
C'est comme si moi demain je me fais arrêter et que je dis que je m'appelle que je suis suédoise et que je m'appelle Ingrid Ichteke et voilà.
C'est là où je reviens à ma question, et je sais que ça peut paraître être une mesure arbitraire, arbitraire au regard du droit et de la loi.
Oui.
Mais pourquoi ce genre de personne qui finalement est SDF, dont on ne sait pas quoi faire, potentiellement dangereux, si tu veux, on n'a pas un endroit pour les garder.
T'as des centres de rétention, mais voilà, ça dure mais 40 jours, et au bout de 40 jours, tu peux les libérer.
Peut-être qu'aujourd'hui, il faut prendre un délai plus long, tu vois, le temps de protéger la population et de mener toutes les enquêtes, puisque ils sont potentiellement dangereux pour la population et même pour lui-même d'ailleurs.
Alors j'ai eu des problèmes, des menaces et même une mise en demeure quand j'ai dit qu'il fallait rétablir le bagne à Cayenne. Bon, laissons Cayenne de côté, rétablir un endroit qu'on appellerait un bagne ou pas un centre de rétention, mais peut-être ça a dissuadé aussi, hein, où tu les mets ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'on sache qu'ils sont pour les renvoyer.
Ad vitam, mais je sais pas, 40 jours, tu passes à 70 ou 80.
Il y a des pays d'Europe où c'est 3 mois. La Grèce, il me semble que c'est 3 mois.
Passons à 3 mois,
on a augmenté déjà la durée, si tu veux. 40. Et c'est un temps, justement, qui sert normalement à non seulement savoir de quelle nationalité est la personne, mais obtenir le fameux laissez-passer.
Parce que moi, je repose la question.
Pourquoi ça sert à rien, Marianne?
Mais parce qu'il y a
des
pays
qui pas du pays, tu commets des crimes, des délits. Pourquoi tu ne te jettes pas dans un coin?
Pardon, tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi a-t-on délivré deux OQTF puisqu'on n'avait aucun moyen de vérifier ces dires?
Mais parce que
on s'est dit finalement on va le croire.
Mais c'est automatique et parce qu'on espérait
quand même. Automatique, d'accord.
On n'allait pas le laisser comme ça en disant bonjour, on ne sait pas qui vous êtes, on vous remet dehors.
On ne sait pas qui vous êtes, on vous garde et on va essayer de savoir qui vous êtes.
Oui, voilà, Gérald Darmanin
ne peut pas nous dire, le ministre intérieur ne peut pas nous dire, on va être meilleur sur les OQTF, on va se donner les moyens.
Il a dit méchant avec les méchants.
On va être méchant avec les méchants.
Mais Olivier, il a dû aller.
On n'est pas méchant avec les méchants, on est gentil avec les méchants.
À la suite de ces deux OQTF, il a dû aller en centre de rétention. Je ne connais pas tout son parcours, mais je pense qu'il y allait.
Après, tu ressors.
Mais par contre, tu ressors au bout d'un moment si on ne trouve pas.
On ne s'est pas donné les moyens.
Kevin Bossuet, là,
qu'est-ce que c'est que ce pays au sein duquel on peut commettre n'importe quoi en toute impunité? C'est-à-dire que si vous êtes un délinquant, vous venez de l'étranger, vous arrivez sur notre sol, vous jetez votre passeport, vous racontez n'importe quoi, vous inventez un faux nom, de faux parents, et même pire, vous fumez un bédo avant de commettre le crime, et vous êtes tranquille, mais ce n'est pas entendable. Et encore une fois, la justice est là pour protéger le peuple français. Quand on relâche des gens comme ça dans la nature, le peuple français n'est pas protégé. Donc pourquoi pas, en effet, créer des centres pour mettre ces personnes-là en attendant que ces personnes soient renvoyées dans leur pays d'origine. Voilà. On est d'accord.
Je remercie Jonathan d'avoir été avec nous. C'est Yanis qui veut intervenir. Il nous appelle de Gironde. Bonjour Yanis.
Bonjour.
Et vous, quelle est votre réaction? Parce que vous êtes un ancien policier d'ailleurs, Yannis.
Oui, en fait, ça. Donc, je suis un ancien policier, j'ai travaillé dans les CRA, ce que vous racontiez. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les OQTF, c'est pas, comme j'ai pu entendre tout à l'heure, c'est pas les policiers qui donnent, c'est les préfectures, c'est les délivrants.
Ouais.
Voilà. Et même une fois que l'OQTF est donné, il faut avoir un laissez-passer qui va récupérer donc son ressortissant. Donc, déjà, c'est très compliqué à avoir. Puisqu'il y a certains pays qui, en fonction de ce qu'ont fait les individus, ne veulent pas les récupérer non plus, hein, vous imaginez bien. Et derrière, donc, faut que nous, on le renvoie. Donc, après, ça peut encore poser problème quand on veut le renvoyer, parce que s'il ne veut pas, il peut refuser une première fois, on le ramène dans un centre. La deuxième fois seulement, il est renvoyé sous escorte. Et quand ils viennent et qu'ils n'ont aucun papier d'identité sur eux, notamment lors des immigrations illégales, forcément, donc, ils vont venir sans leur passeport, sans rien du tout, en fait, c'est très compliqué de récupérer leur véritable identité, donc leur véritable origine. Et légalement, on ne peut pas le renvoyer. Je ne sais pas, par exemple, si c'est un ressortissant algérien, on n'a pas le droit de le renvoyer au Maroc, puisque le Maroc n'a pas récupéré quelqu'un qui ne vient pas de chez lui.
Oui, absolument.
Il est à préciser, excuse-moi Yanis, que dans les pays d'origine, moi je vais parler de la Tunisie parce que c'est le seul pays que je connais, quand tu es pris en train de vouloir partir sans papier, comme ça, on appelle ça hadaga, C'est non.
Ou quand la Tunisie
quand tu veux quitter la Tunisie de manière clandestine, ou quand tu es pris, à, même si tu es parent et que tu es au courant que ton enfant va partir, que tu es considéré donc comme complice, tu rentres tout de suite en prison. Pour eux, c'est extrêmement puni par la loi. Je crois que tu fais 2 ou 3 ans
c'est
d'office.
C'est plus fini en Tunisie qu'en France.
Ben non, mais je suis sérieuse. Non, si tu es pris sur un bateau, si tu as un projet, que tu es pris en flag et qu'on identifie les passeurs ou quelqu'un qui est au courant que tu veux quitter le territoire, tu vas en prison d'office. Donc c'est pour ça que je comprends pas que
parce qu'en France ce n'est pas un délit.
Moi je sais que en France, enfin nous en tout cas dans les CRA là où j'ai travaillé, on a reçu la on a reçu la même personne 2 ou 3 fois avec 3 identités différentes.
Voilà.
Le problème c'est qu'à chaque fois, ben on ne sait rien de lui.
C'est ça.
Il fait que ben il reste. Alors aujourd'hui c'est 90 jours en France aussi. Hein. C'est ça a changé là il y a 2-3 ans. Donc c'est 90 jours aussi le temps maximum. Mais par contre, voilà, en fait, le problème, c'est qu'on...
Mais Yanis, alors, dans ce cas-là, le bon filon, je suis étranger, j'arrive en France, je commets des délits, je déchire mon passeport, je raconte n'importe quoi à la police et je suis peinard.
Moi, Yanis, j'ai une question pour vous qui êtes sur le front.
Je voulais savoir une chose, parce que comme vous avez travaillé dans ces centres de rétention administratifs, les personnes qui sont dans les centres de rétention, est-ce qu'elles rentrent, elles sortent toute la journée, elles vont et viennent, alors, comment ça se passe?
Alors, c'est une rétention, donc c'est pas de la détention, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans un centre. Donc ils sont dans le, ils font ce qu'ils veulent dans le centre. Par contre, ils ne peuvent pas sortir du centre.
D'accord.
En revanche, à l'intérieur du centre, ils ont le droit, contrairement à la prison, ils ont le droit au téléphone, ils ont le droit aux visites toute la journée. Ils ont, enfin voilà.
D'accord.
Il y a vraiment tout, ils font ce qu'ils veulent.
Mais moi, j'ai une question.
Est-ce que vous avez les moyens pendant ces 90 jours? Parce qu'en fait, ça sert à rien de retenir la personne 90 jours s'il se passe rien pendant 90 jours. L'intérêt, c'est de retenir la personne et de pouvoir statuer précisément pendant ces 90 jours et lui donner une réponse. Soit vous avez le droit de rester ou pas de rester. Est-ce que on se donne les moyens de d'apporter une réponse? Voilà, avoir une obligation de résultat.
Alors, on se donne les moyens. Après, c'est ce que j'ai. Le problème, c'est qu'il y a des fois, c'est très compliqué. Quand la personne vient 3-4 fois, qu'elle a 3-4 identités différentes, c'est très compliqué de voir. Donc après, il y a toujours...
Et la reconnaissance faciale?
Moi, j'ai une question pour vous, Yanis, après.
Le problème de la reconnaissance faciale, c'est que si la personne est partie de son pays à 15 ans, aujourd'hui, elle en a 25-30, en fait, alors déjà, il faudrait que...
Lui, ça faisait 3 ans.
Déjà, il faudrait qu'on l'ait vu en partant de son pays, qu'il y ait une reconnaissance faciale quand elle est partie de son pays. Et puis bon, après, voilà, c'est pareil.
Moi, j'ai une question, s'il vous plaît, à Marianne. Vous, parce que vous êtes le mieux placé de nous tous, en fait, parce que ça a été votre métier, est-ce qu'il y a une proposition de solution de vous qui êtes confronté à ça? Parce que non, mais c'est vrai, parce qu'on ne sait pas, c'est vous qui savez,
alors,
en fait.
Yanis.
Moi, pour moi, il n'y en a pas, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on devrait vous écouter à vous.
Yanis.
Aujourd'hui, nous, quand on travaille, c'est très compliqué. Alors, quand on essaie de discuter avec eux, des fois, quand il y a un climat de confiance, on arrive à savoir. Ils vont nous dire que c'est pas leur identité, ils vont nous dire ce genre de choses. Le problème, c'est que ça reste du verbal, en fait. Donc, même si quand nous, on le remonte, eh bien, c'est les mêmes recherches derrière qui doivent être engagées. Des fois, ça n'empêche que c'est très long quand même. Donc, et bien évidemment, c'est une très petite minorité qui nous font confiance, avec lesquelles on va arriver à pour obtenir quelque chose, donc ça reste très compliqué.
Donc il n'y a pas de solution.
Alors, juste une petite précision, les étrangers qui demandent par contre un titre de séjour, automatiquement on prend leurs empreintes. Donc là, ceux qui sont concernés dans la situation que décrit Yanis ou de la situation de ce SDF, c'est des personnes qui n'ont jamais fait de démarche pour être régularisées.
Merci Yanis de ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous. Yanis, donc ancien policier qui travaillait dans les centres de rétention administrative. Violé aux urgences par un sans-papier à Cochin. Est-ce que l'État, vous considérez que l'État est responsable?
Pas avec l'hôpital Cochin aussi, s'explique.
Dans cette affaire, c'est un oui à 88% pour ceux d'entre vous qui nous ont suivis, qui ont été écoutés et qui ont voté sur Twitter. Dans un instant, avec Kevin Bossuet, avec Marianne Soubré et Kauter Ben Mohamed, on s'en fout pas, 25% des infirmiers qui veulent quitter leur métier, 68% des Français qui se disent heureux, et la corrida, c'est pas le moment, dit Emmanuel Macron. On s'en fout pas de ça. Pour tout de suite.
RMC,
9h midi,
les grandes gueules,
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules en direct avec aujourd'hui Kauter Ben Mohamed, président de l'association Marseille en colère. Nous sommes avec Marianne Soubré, avocate, et Kevin Bossuet, professeur d'histoire géographie. Il est 10h moins le quart. On parlera du cas d'Adrien Quatennens tout à l'heure à 10h avec vous au 32-16 après les dernières révélations de sa femme. Est-ce qu'il peut encore rester député, franchement? Est-ce qu'il peut encore avoir l'écharpe bleu, blanc, rouge? D'autant que maintenant son groupe le met en retrait de tous les travaux du groupe. Enfin, là encore, ça pose des questions, des problèmes, et on vous attend au 32-16. En attendant, c'est le on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
avec Anaïs Gerbier ou Louis Sainz, on ne sait plus finalement.
Ah oui, ils sont ensemble maintenant.
Quoi,
où est-ce que tu l'as mis, Louis, alors du coup?
Je l'ai caché.
Ah, en revanche, je lui ai piqué sa chemise.
Mais non, c'est à moi ça, bah merci. Les GG, retour du débat sur la corrida aujourd'hui à l'Assemblée nationale et Emmanuel Macron s'est prononcé sur la question, on l'écoute.
Qu'il y ait des débats dans la société, ils sont légitimes. Moi, je les entends tous. Dès qu'on est dans l'invective, ça marche pas. Je le dis très sincèrement. Donc, il ne va pas y avoir d'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation aussi, vers un échange.
Depuis le temps que je patiente.
Finalement, donc, est-ce que c'est pas Emmanuel Macron qui s'en foutrait un petit peu de la corrida et vous, les GG? Kauter, s'en fout ou s'en fout pas?
Non, s'en fout pas.
La corrida, on s'en fout pas du tout.
Kevin.
On s'en fout pas.
Bon, Kauter.
Non seulement on s'en fout pas de la corrida et de ce qui se passe pour les taureaux, mais ce qui me fait rire, c'est que pour lui, c'est jamais le moment de rien, en fait, tu vois. C'est juste le moment de faire son show quand il a envie, c'est le moment de faire des restrictions aux Français. Rien ne va en France, tous les services publics sont à vlo. On parlait de l'hôpital, on parlait de l'école avec Kevin, on peut parler de la justice avec Marianne, mais il faut parler de rien. Tant que ça ne le concerne pas lui, que ça ne lui rappelle pas des points, on ne parle de rien.
Kevin.
Oui, moi je trouve qu'il se prend un peu trop pour Jupiter. Voilà. Il y a un Parlement qui a été élu, il n'a pas à empiéter sur le travail du Parlement. C'est et c'est ça qui est inacceptable. Et de manière plus générale, moi je suis plutôt un conservateur, mais sur la corrida, je milite également pour le bien-être animal. Pour moi, c'est de la barbarie, la corrida. Au cours d'une corrida, un taureau perd en moyenne entre 8 à 18% de son sang. Le picador doit viser les muscles du cou, mais généralement il sanctionne aussi des nerfs, il sanctionne des ligaments. Enfin, c'est une véritable... Il sectionne, pardon. Oui,
c'est
une véritable barbarie. Donc à un moment, on peut peut-être aller vers plus de civilisation, s'occuper un peu plus du bien-être animal et pourquoi pas à la place organiser des fêtes taurines sans que ce soit aussi cruel, tout simplement.
Quand Emmanuel Macron dit que c'est pas la priorité du moment, je pense qu'il nous prouve encore une fois qu'il est déconnecté complètement de l'opinion publique. On en parle.
Est-ce que tu sens que c'est une priorité de l'opinion publique justement?
En ce moment, oui, ça a été mis. En fait, ça a été mis sur le devant de la scène et très bien porté d'ailleurs. Rendons à Émeric Caron ce qui appartient à Émeric Caron. Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, mais là, il a raison. Et donc,
les Français, ils parlent plus de leur pouvoir d'achat, leur panier, les courses, le carburant, la corrida.
Tu peux pas.
Non, parce que je pense que il ne faut pas confondre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur Twitter,
non,
l'importance que ça prend par rapport à la place que ça a aujourd'hui dans les foyers français.
Après, ça prend une journée le débat, ça va pas non voilà, plus. Voilà, ça prend une demi-journée, même pas. Quand tu demandes aux Français, tu as, je ne sais plus, 85 ou 90% des Français qui sont pour l'interdiction. Quand Emmanuel Macron nous dit que ce n'est pas la priorité, ça veut dire qu'il n'entend pas les Français.
Il prend un risque parce que si jamais cette loi passe avec des députés de sa majorité qui la votent, Macron a pris un risque politique.
Les GG, pas possible de porter au Qatar le brassard One Love contre les discriminations LGBT. Alors les joueurs allemands ont envoyé un message à la FIFA dans un style un peu différent. Ils se sont ostensiblement mis la main devant la bouche sur la photo d'équipe hier soir pour leur entrée en lice dans la compétition. C'était contre le Japon. Les Anglais avaient mis un genou à terre pour protester contre la FIFA qui menace de sanctions, on le rappelle, hein, les équipes qui portent le fameux brassard One Love contre les discriminations. Est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout pas, Marianne?
On s'en fout pas.
Kevin?
On s'en fout.
Kauter?
Les deux.
Kevin?
Non, Marianne, il s'en fout, Kevin.
Ah pardon, Marianne. Alors, moi je m'en fous pas parce que là encore, on va revenir à Emmanuel Macron, ne mêlons pas la politique au sport. Et ben, on voit qu'il y a des sportifs qui, alors engagé. Évidemment, les Iraniens sont les plus courageux des plus courageux, mais en attendant, les Allemands donnent une bonne petite leçon aux Français et ils ont raison. Donc je m'en fous pas.
On continue.
On parlait de la crise à l'hôpital tout à l'heure. 29% des infirmiers envisagent de quitter le métier dans les 12 prochains mois, selon un sondage de l'Ordre national des infirmiers. Est-ce qu'on s'en fout ou pas les GG? Kauter?
Personne s'en fout là, j'espère.
Marianne?
Non, on s'en fout pas.
Non, on s'en fout pas.
Kauter?
On s'en fout pas parce que, bon, pas que ce qui vient de se passer dont on a parlé tout à l'heure du viol, mais de manière générale, encore une fois, et moi je le suis bien en tant que malade et je ne suis pas la seule, les infirmiers ont de leurs conditions de travail dépendent de nos vies. C'est une phrase que je dis depuis bien longtemps, bien avant que tout ça soit médiatisé, parce que moi j'ai vu la dégradation du malade depuis 2011 et j'ai vu la dégradation de l'hôpital public depuis 2011 en termes de moyens, en termes de nombre de personnel par étage, en termes de prise en charge. Et donc si ces personnes-là sont maltraitées au travail, elles seront forcément moins enclines à bien nous soigner et nous sauver nos vies.
Marianne? Non, mais je veux dire, là, on a un cruel manque, en fait, de personnel. Alors, si en plus, il y a des gens qui s'en vont, non, on s'en fout pas. Il faut vraiment qu'ils restent. Il faut les rattraper. Il faut qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Kevin?
Oui, mais pour les rattraper, il faut des salaires qui soient dignes. Il faut des perspectives de carrière. Il faut véritablement rendre un sens à ce métier, puisque les infirmières aujourd'hui nous racontent que finalement elles ont l'impression de ne pas pouvoir s'occuper réellement des patients. Donc il faut repenser l'ensemble de l'hôpital, et quand on organise des grenelles ou je ne sais pas trop quoi, des ségures, voilà, pour augmenter de 100 balles les infirmières, en fait on ne fait qu'acheter leur silence. Je trouve ça incroyable. Je trouve que dans ce pays, on dit toujours les fonctionnaires sont les mieux, bien lotis, etc. En fait aujourd'hui, les fonctionnaires sont profondément malheureux, sous-payés, avec des conditions de travail qui ne sont plus acceptables.
Parce qu'on n'est plus considéré comme des patients, mais comme des clients par l'hôpital.
Là, c'est l'échec d'Emmanuel Macron, de Véran et de François Braun. Parce que pendant longtemps, l'argument était de dire oui, mais on n'a rien fait à l'hôpital depuis 30 ans, on va réparer. Là, il y a eu un quinquennat, plus un an et demi, plus 9 mois d'un deuxième quinquennat. Il y a eu également, tu as raison, on a rappelé le Ségur de la Santé. Et finalement, les infirmières ont toujours envie de se barrer. Donc ça veut dire qu'on n'a pas trouvé pour l'instant la bonne méthode.
Mais bien sûr.
Les GG, question très sérieuse. Est-ce que vous êtes heureux, Kauter?
Ça veut dire quoi, heureux?
Bah, heureux.
Est-ce que tu as le bonheur en toi?
Je suis pas malheureuse. Il y a des jours avec, il y a des jours sans.
Marianne.
Ah, mais oui.
Kevin.
Pareil que Kauter, il y a des jours avec, des jours sans.
Voilà. Bon, écoutez, le français est râleur, mais le français est un râleur heureux. Une large majorité de français, 68%, se dit heureux, selon un sondage Elab pour BFM TV. Un tiers des sondés se dit même très heureux, malgré les vives inquiétudes.
C'est faussé. Elle est jeune mariée.
Elle est
jeune mariée, si tu veux.
Elle ne peut qu'être heureuse.
Elle marche sur les nuages.
Elle baigne dans le bonheur.
Mais j'en profite.
Il faut l'interroger dans 2-3 ans.
Ça sera pareil, monsieur, pareil.
Merci Anaïs. Merci Anaïs Sainz.
Est-ce que tu es heureuse, ma chère Anaïs?
Oui, très.
La première heure des GG se termine. D'ici quelques minutes, vous pourrez la retrouver en podcast sur notre site internet rmc.fr, sur l'appli RMC. Et d'ici midi, tout à l'heure, à 11h20, on vous a préparé un GG 7 et match autour de la réautorisation des terrasses chauffées. C'est interdit complètement depuis mars. Seulement les restaurateurs, les cafetiers disent « Nous, on en a besoin ». On veut faire du chiffre d'affaires et bon nombre de gens sont quand même contents finalement de se mettre en terrasse, chauffer, de prendre un petit café, de pouvoir discuter. Alors, est-ce que oui ou non, on réautorise les terrasses chauffées? C'est à 11h20 dans le GG 7 et match qu'on en parle. À 11h, on recevra des maires lauréats du Grand Prix hier. Ils viendront nous parler de leurs initiatives. Mais dans un instant, l'affaire Quatennens, Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, les révélations de son épouse aujourd'hui sur les violences psychologiques conjugale dont elle a été victime. Est-ce qu'il peut garder son écharpe de député, Adrien Quatennens? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules, en direct sur RMC et RMC Story.